Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec un invité de marque puisque je suis avec Manuel Diaz. Salut Manu.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Ça pêche?
Ouais, super.
Donc on s'est rencontrés il y a quelques jours sur Paris et en fait j'étais très impressionné par ton histoire parce que tu as créé ta première entreprise à 18 ans.
Ouais.
Et cette entreprise existe toujours aujourd'hui et elle emploie aujourd'hui 1500 personnes. Ouais. Quand même, donc c'est pas rien, c'est ça?
À travers, oui, oui, on a plus de 700 collaborateurs en Europe, plus le réseau international, etc. Donc oui, ça fait du monde, oui.
Ça fait du monde et je me suis dit, c'est quand même super inspirant comme histoire, j'ai envie de la partager avec mon audience. Donc là, on est sur une péniche que je loue à Paris pour quelques jours et ça bouge un petit peu. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais nous, on se sent...
On se sent bercé.
On se sent bercé, exactement. Ouais. Alors, donc ton entreprise, c'est Emakina.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Tu peux raconter un peu?
Ah oui, c'est très simple. En fait, notre travail au quotidien, c'est aider les grandes marques, les entreprises à appréhender la transformation digitale en leur fabriquant ce que nous on appelle des expériences clients réussies. Donc en fait, on se rend compte à travers les années que ce que le digital a introduit entre les marques et leurs clients, c'est une relation d'une grande proximité, beaucoup plus forte. Le client peut interpeller la marque quand il est content ou pas content, etc. etc. Et ça, ça met le bazar dans les entreprises. Les entreprises, elles ne sont pas structurées pour ça. Elles savent faire quoi? Elles savent dire « Regarde mon produit comme il est beau, je vais faire une super campagne pour te le montrer sous son meilleur angle, je vais te le mettre à la télé, à la radio, dans la presse et puis dans des bannières. » Mais gérer de la conversation entre une marque et un client final, ça fait, elles ne savent pas appréhender ça en fait, ou très très mal. Si tu mélanges à ça le fait que les clients maintenant ils disent je veux acheter en ligne, aller retirer en magasin, je veux être dans le magasin et me faire livrer chez moi, etc. Ça pose des problèmes de logistique incroyables. Et donc nous, notre positionnement, c'est d'aider les grandes marques à faire en sorte que leur expérience soit la plus réussie possible, la plus satisfaisante, exceptionnelle à vivre pour que les clients adorent, préfèrent leur marque, en parlent et la préfèrent à d'autres. Voilà.
Et pour résumer en quelques mots, on peut dire que tu es une agence de communication sur le web.
Exactement. On va, dans une seule et même offre de service, partir de cette idée, c'est-à-dire où est le problème et comment on peut le résoudre. Et puis ensuite, dans l'agence, eh bien, y a toutes les compétences pour le faire. Il y a plus de 300 ingénieurs, il y a des ergonomes, il y a des gens spécialistes sur la sémiologie, sur le langage, sur l'interculturalité, sur le design, sur la user experience. Bref, tous les métiers qu'il faut pour répondre à ces problèmes.
Waouh. Ouais. Et donc, tu l'as créé à 18 ans?
Oui. Alors, à 18 ans, ça ne ressemblait pas à ça.
Oui, j'imagine bien que...
À 18 ans, bon...
C'était en quelle année déjà?
97.
97, donc c'était vraiment le début d'Internet.
Exactement.
On pourrait même dire la préhistoire. C'est...
Ah ouais, moi j'ai assisté à des réunions où la question, c'était est-ce qu'on va donner des adresses e-mail à tout le monde?
Waouh.
C'est... Vous vous rendez compte, on va pouvoir envoyer un email au patron directement, etc. Donc, voilà. Donc, on a été une des premières agences web en France. Je me souviens d'ailleurs pour l'anecdote que j'ai créé cette agence avec mon frère. Quand on a été à la chambre de commerce, on ne savait pas dans quel registre nous immatriculer. Okay. Ça correspondait à rien, en fait, à aucun métier de référencé connu, etc. Et puis évidemment, on a démarré par la partie la plus simple qui est créer des outils, créer des sites web, créer de la communication pour ces gens qui découvraient Internet et surtout les aider à comprendre quels étaient les enjeux d'Internet. Et ensuite, l'agence s'est développée jusqu'à être ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà.
Et alors, c'est dingue parce que tu as 18 ans, en 97.
Ouais.
Comment tu as l'idée de faire un truc pareil?
Ben, en fait, j'allais assez jeune à beaucoup en Angleterre. J'ai découvert Internet chez mon correspondant de l'époque sur les campus universitaires. Et un peu comme on tombe en fascination, je me suis dit, il va se passer un truc. Je me suis intéressé à Internet. J'ai passé un temps énorme pour les plus anciens qui fréquentent Internet sur ton channel, dans IRC. J'ai rencontré des potes.
Dans le logiciel de communication à l'époque, un peu le Skype d'aujourd'hui.
C'est ça,
ouais.
Mais en beaucoup moins sexy,
ouais.
Avec beaucoup de lignes de commande, etc. etc. C'était assez rigolo. J'ai rencontré des super potes, dont un de mes meilleurs amis avec lequel je suis toujours ami qui a joué un rôle important dans le développement de l'agence. Et voilà, ça s'est passé petit à petit. J'ai découvert cet univers. Je me suis dit, bon, il va se passer quelque chose. Et j'ai dit à mon frère à l'époque, il faut faire quelque chose. Mon frère s'apprêtait à à être prof, il est un peu plus vieux que moi. Et puis finalement, on s'est dit, bon, on va créer cette agence ensemble et on va voir ce que ça donne. On vient pas du tout d'un background études de commerce. Moi, à 18 ans, j'ai juste mon bac, tu vois.
Tu as quand même eu ton bac.
Oui, j'ai eu mon bac, mais on n'a pas été prédestiné à être entrepreneur avec des études de commerce, etc. etc. Donc, ça te... en même temps, tu as beaucoup d'engouement parce que tu es en train de défricher un nouveau territoire et tu as envie de réussir et de montrer que ton intuition était juste. Et par ailleurs, il faut que tu travailles plus que les autres parce que tu es confronté à des gens qui ont été plus préparés à être entrepreneurs. Donc, ça donne beaucoup, et je ne sais pas, toi qui vois beaucoup d'entrepreneurs, si c'est un trait commun entre les autodidactes ou pas, mais je trouve que beaucoup d'entre nous, des autodidactes, ils travaillent plus que la moyenne. Il y a cette frustration ou ce côté un peu mal à l'aise où tu te dis « est-ce que je suis légitime ou pas légitime ?» Donc, il faut que je sois meilleur que les autres. Mm-hmm. Donc, il faut que je prouve que je suis plus pertinent que les autres. Donc, je travaille plus que la moyenne. En tout cas, pour moi, ça a joué beaucoup.
C'est intéressant parce que finalement, j'ai un parcours qui est très similaire au tien, sauf que je n'ai pas développé une boîte aussi grosse. Mais pareil, je suis un autodidacte, je n'ai même pas le bac. Moi. J'aime bien dire que j'ai un bac moins 2 en fait. Est-ce que le fait d'être autodidacte, ça m'a donné plus la niaque ou pas? Ce qui est sûr, c'est que j'étais ultra motivé pour réussir ma boîte parce que, effectivement, quand tu arrêtes tes études aussi jeune, tu dois aussi prouver à tes parents, ça peut paraître con, mais à 18 ans, tu dois prouver à tes parents, et puis à tout ton entourage, à tes amis et tout ça, que tu t'es pas planté et qu'au début, tu as le feu sacré. Quoi.
Oui, et puis je pense que si tu as une motivation saine qui est de te dire j'ai envie de réussir, pas pour toi ou quoi que ce soit, mais comme tu dis, pour montrer aux autres qu'ils peuvent être fiers de toi. Je pense que c'est un sentiment agréable quand tu es un enfant de dire que tes parents sont fiers de toi. Et puis ensuite, par source d'épanouissement, c'est te dire un challenge après un autre. Je pense que quand tu as mis ton doigt dans la machine, tu as envie d'un autre challenge, puis d'un autre challenge, puis d'un autre challenge et d'avancer comme ça. Voilà.
Mais bon, quand même, 18 ans, alors moi j'ai connu, mais finalement pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui nous regardent, ils disent mais comment il a fait quoi. Donc tu as ton bac et tu te dis avec ton frère,
ouais,
on va arrêter nos études pour nous lancer dans ce projet d'agence web, alors que le web, à la limite, sans doute tes parents ne savaient même pas ce que c'était.
Ouais.
Comment ils ont pris la chose, tes parents? Comment tu les as convaincus que...
En fait, alors mes parents, la seule matérialité qu'ils avaient du web, c'était le montant des factures téléphoniques qui arrivaient à la maison. Parce qu'à l'époque, on payait la minute de connexion, il ne faut quand même pas oublier.
C'était avant les connexions en débit.
Donc ce qui m'a valu quelques explications bien normales d'ailleurs. mon frère, lui, avait fini ses études. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit... c'est quoi ta question?
Comment tes parents l'ont pris? Comment tu as réussi à les convaincre?
En fait, mes parents m'ont jamais interdit de faire quoi que ce soit. Ils m'ont toujours dit, tu peux choisir n'importe quoi, mais à partir du moment où tu as choisi, un, tu le fais à fond, mm-hmm, et deux, tu le fais du mieux possible. Donc, j'ai pas eu trop à lutter. Mon père qui est artisan, donc avec une fibre entrepreneuriale et d'autonomie dans son entreprise, était très encourageant. Ma mère aussi, mais elle était comme une maman un peu inquiète de se dire comment ça va se passer. Et puis au bout d'un moment, elle s'est dit bon, en même temps, si ça marche pas, si dans un an ou dans deux ans il doit reprendre ses études, c'est pas la fin du monde, il a jamais redoublé, etc. Donc voilà. Et puis en fait, ils ont été très très encourageants. À partir du moment où la décision a été prise, où on est venu avec mon frère dire voilà, on veut faire ça, ils ont été très encourageants. Ils ont même beaucoup plaidé les premières années de l'entreprise, en fait, quoi.
D'accord.
Et encore aujourd'hui, en fait.
Un soutien moral.
Le fait de moi, mon frère était déjà parti de la maison puisqu'il est plus vieux que moi, mais moi, les premières années, je suis resté chez mes parents, le temps de savoir comment ça allait avancer. Dès que tu commences à bosser à fond, bah, tu as un rythme de vie qui change, tu n'es pas forcément synchrone avec le reste du foyer familial, tu vois, et accepter ça, voilà. Donc, non, et puis beaucoup d'encouragement et le fait d'y croire, ce qui te donne du courage.
Et quand tu as pris cette décision d'arrêter les études et de te lancer à fond dedans, est-ce que tu avais déjà commencé à tester le concept vraiment sur le terrain en mode lean startup, c'est-à-dire avoir des clients, ou vraiment tu te basais juste sur ton idée et ton étude de marché?
En fait, Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'on parle vaguement d'Internet. La France regarde Internet en se disant le Minitel n'est pas mort. La France regarde Internet en se disant qu'est-ce que c'est? C'est un Minitel en couleur, c'est américain, c'est pas américain, etc. Tu vois? Et au final, si j'avais fait le modèle Lean, que je préconise beaucoup aux startups que je croise aujourd'hui ou que je conseille ou dans lesquelles j'investis, ça aurait été compliqué parce que je pense que globalement, le marché n'était pas prêt à entendre ou à tester ou à comprendre. Si j'avais écouté les gens autour de moi, je n'aurais pas fait. Et c'est là où on heurte.
C'est la même chose pour moi.
Ouais, j'imagine.
Ouais, si j'avais fait un sondage, je ne l'aurais pas fait. Enfin, si j'avais écouté le sondage plutôt.
Exactement. Ouais. Et j'aime bien ce que disait Steve Jobs là-dessus. En fait, il disait, ne demandez jamais aux consommateurs ce qu'ils veulent, sinon vous allez faire des trucs complètement aberrants. Ayez des convictions. Après, il faut essayer de les objectiver, il faut prendre beaucoup de distance avec ce qui t'entoure. Faut regarder l'international, ça compte beaucoup par rapport à ton marché de base pour te dire est-ce que ok mon marché de base est en retard, mais si le reste de l'international est en train d'y aller, ça veut sûrement dire qu'à un moment on va suivre. La question c'est est-ce que c'est trop tôt ou en fait il faut toujours être dans le bon timing. Il y a une histoire de timing qui est important. Si t'es trop tôt, c'est compliqué parce que tu n'as pas assez de revenus pour vivre. Si tu es trop tard, tu as beaucoup de compétiteurs qui sont devant et ça va être compliqué de les rattraper. Donc, il y a une histoire de timing aussi. Et puis, je pense que aussi, c'est plus facile d'entreprendre quand tu n'as rien à perdre en fait.
Moi, j'ai toujours dit qu'avoir créé Cigène, c'était une super chance. Tout n'est pas évidemment positif, mais par exemple, en négatif, on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas de réseau. Il faut parfois, c'est pas forcément facile d'être crédible. Dans l'informatique, ça va. Mais c'est vrai que si on avait voulu créer une boîte dans le bâtiment, par exemple, ça aurait été compliqué. Plus compliqué. Par contre, on a très peu de besoins matériels. On peut encore vivre chez ses parents. Bon, moi, en l'occurrence, mon père m'avait mis dehors, mais j'ai vécu dans une petite chambre d'étudiants, ça ne me dérangeait pas. Et puis, on a vraiment le feu sacré, comme tu disais. On n'a rien à perdre, quoi. Mais en même temps, on a tout à prouver.
Exactement. Donc, je pense que c'est ça qui crée le grip.
On n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants à nourrir, on n'a pas d'hypothèque, de prêt à rembourser sur la maison.
En fait, le coût du fail est très bas.
Oui, complètement. Parce qu'au pire, tu reprends tes études et puis ça te fait une bonne expérience.
C'est ça. Et tu as vécu un truc. Et même si on est très irrigué par la culture plutôt anglo-saxonne qui dit le fail est une expérience, etc., etc. Et je pense qu'en France, on n'en est pas là. L'acceptation du fail dans un parcours professionnel, tout le monde en théorie dit c'est super, on a appris des choses, etc. Je vois beaucoup de recruteurs, de gens qui recrutent en disant bon, quelqu'un qui a échoué, il va peut-être être plus cuisiné en entretien que les autres, tu vois. Donc en théorie on accepte le fail, en pratique je le vois pas tant que ça. Donc faut prendre un peu de distance avec la réalité de ce truc là en France, je le dis bien. Dans d'autres, il y a d'autres pays qui l'appréhendent très différemment, mais il y a un côté très conservateur en France.
Ouais, complètement. Les mentalités changent, mais lentement.
Très lentement.
Très lentement. Ouais. On le voit pas mal de choses. Ok, donc tes parents finalement étaient un support où on va dire ils n'étaient pas trop dans l'équation. Finalement, ils n'ont pas été des freins majeurs ni des.
Non, mais ils ont été un vrai encouragement.
Ils ont été un vrai encouragement. Ouais. Ok. Comment tu as eu ton premier client? Comment ça s'est passé?
Alors notre premier client c'était, alors il faut quand même préciser que moi j'ai créé cette agence en province en plus, pas à Paris, moi je suis pas parisien, à Limoges.
Limoges, oui, donc c'est pas le plus dynamique.
Voilà, ouais. Et donc là on se dit bon ok, Limoges, qu'est-ce qu'on a autour de nous? On a la porcelaine, on a le grand électrique, on a toutes les grosses boîtes régionales. Et en fait on n'a pas attaqué par ça, on a regardé plutôt le secteur. Et en fait quand on se rappelle des débuts du web, les premiers secteurs qui s'y sont intéressés ont été les petites annonces, qu'on comprit que c'était une menace parce que ça allait beaucoup se passer par là, et le secteur du tourisme. Et notre premier client a été une agence de tourisme locale qui avait envie de parler plus loin et plus fort à une quantité de clients plus importante et d'être trouvable plus facilement, y compris pour des clients étrangers qui avaient envie de venir dans la région, notamment les Anglais qui fréquentent la région de Limoges, le Périgord, etc. etc. Et donc, ça a été notre premier client. On a passé énormément de temps à expliquer comment ça fonctionnait, à convaincre, à faire... Enfin, quand j'y pense, je me dis, en fait, on a dû passer autant de temps à expliquer qu'à fabriquer le projet, en fait.
D'accord, ouais. C'était vraiment de l'évangélisation à l'époque.
Ouais, totalement.
Tout expliquer de zéro.
Ouais, totalement, de zéro, quoi. Ouais. De comment tu te connectes, comment tu récupères tes mails, à la fin, on va faire un site web ensemble et tu vas peut-être faire du business avec. Et je me souviens aussi des yeux du client quand il a reçu ses premiers emails de personnes qu'il ne connaissait pas et qui lui demandaient des offres et de booker des réservations dans la région. C'était marrant.
C'est incroyable. Tu as vraiment vu le début du début. Quoi.
Ouais,
et tu étais un acteur majeur de... Enfin, en tout cas, un acteur de, ouais. De ce début. De la...
C'était marrant à observer. Ouais. Ouais.
Et ça fait des bons souvenirs, moi.
Ah bah, c'est génial. Je me souviens... Enfin, tu vois, je sais pas si c'est des personnalités qu'on connaît tous, mais Jean-Michel Billot qui avait créé l'atelier BNP Paribas, il m'avait fait mes premiers voyages d'études aux États-Unis. Je partais avec lui. À l'époque, Loïc Lemeur était hébergeur de sites web.
C'était vraiment l'époque héroïque, quoi.
Voilà, c'était tout le monde cherchait dans des voies différentes. Et voilà. Et globalement, on est restés tous assez potes les uns des autres en prenant des directions différentes.
Parce que j'ai oublié de préciser aussi, tu es quand même l'auteur d'un livre que tu as sorti il y a 2 ans, je crois, c'est ça ?
Non, en octobre dernier.
Ah, en octobre dernier, autant pour moi, donc tous digitalisés.
C'est ça.
Le sous-titre, c'est « Si votre futur avait commencé sans vous », où en gros, tu partages justement la disruption qu'amènent toutes ces nouvelles technologies.
En fait, l'idée, c'était de ne pas faire un bouquin pour les spécialistes qui connaissent déjà très bien Internet, etc., mais plutôt de s'adresser aux économies traditionnelles, aux business traditionnels qui ont besoin de se dire « Ok, j'ai pas trop investi sur ces sujets-là ces derniers temps, j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je m'y mette. Comment je rattrape mon retard ?» Et en fait, l'idée de ce bouquin, c'est de dire « Voilà, si vous n'avez pas saisi toutes les subtilités du truc, en à peu près 200 pages, vous allez comprendre ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer.
Ce que vous avez loupé, ce que vous êtes en train de louper, et ce qu'il ne faut pas que vous loupiez.
Exactement. Et toutes les opportunités qui se présentent, et regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en se disant « C'est génial, on vit une époque d'une créativité extraordinaire. »
C'est clair.
Voilà. Où tout est à réinventer, en fait.
Plein d'opportunités énormes.
T'es la preuve vivante de ça.
Et toi aussi. On est la preuve vivante, high five. Et ce qui est dingue, c'est qu'en 97, enfin, il y a presque 20 ans, tu faisais le même métier, finalement.
Oui.
Et t'as toujours des gens que tu dois convaincre encore aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est...
À des échelles différentes, les combats sont plus les mêmes, tu vois, à l'époque.
T'as pas besoin de dire aux gens, mettez un mail pour chacun. Et puis...
Non, bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, les grandes discussions sont autour de la data, la stratégie du management de la data, qu'est-ce que je fais de cette data. Il y a beaucoup de clients qui sont obsédés par... Ils ont compris à force d'entendre... Bon, il faut comprendre aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas un magazine qui parlait d'Internet ou très très peu. Il y avait des magazines sur l'informatique et il y avait 2 pages sur Internet quelque part ou 2 rubriques, tu vois. Bon, tout ça a énormément changé, tu vois. Mais le fait de l'avoir vécu et d'avoir donc beaucoup passé de temps et accumulé une expérience sur la capacité à être pédagogue et à faire comprendre les enjeux, je crois que ça joue beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est très profondément ancré dans l'ADN de l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose que tous les collaborateurs chez Imakina ont parce qu'on leur a, consciemment ou inconsciemment, beaucoup transmis ça. Voilà. Donc c'est une des particularités, je pense, de notre l'agence, de notre entreprise.
Donc, premier client à Limoges.
Ouais.
Donc, tu continues ton petit bonhomme de chemin en province, toujours dans Limoges, qui est vraiment, c'est pas la ville la plus dynamique de France. Donc, comment ça s'est passé ?
Je vais encore me faire des copains. C'est une belle ville. Mais c'est pas une grosse ville, mais c'est une très belle ville.
C'est pas la ville où on pense en premier qu'on veut démarrer une start-up.
Non, c'est sûr. Okay. Mais le côté lean, c'est de se dire...
Teste localement, environnement.
Je ne me donne aucune raison de ne pas le faire. Si on veut se trouver des raisons de ne pas le faire, on se dit « Ah ouais, il faut que je déménage à Paris, je connais personne, etc. » Non, tu démarres maintenant, tu testes, tu vois ce que ça donne. Tant et si bien que, en fait, après, on a ouvert un bureau à Paris quelques années plus tard, 4-5 ans après. Avec mon frère, mon frère en premier faisait les allers-retours à Paris. Donc, tu viens, tu fais 2 jours de rendez-vous, tu essayes d'aller dans... les salons, les expos qui sont organisés autour de ce métier, parce que l'industrie a commencé à se structurer, tu rencontres des gens, les blogs apparaissent, ça aide à rencontrer des gens aussi. Je me souviens des premiers Paris Blogtil, etc., etc. Tu passes deux jours à Paris, tu fais à fond des rendez-vous, puis tu rentres à Limoges et tu briefes ta production, tes équipes, sur les gens que tu as croisés, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, quelles idées on pourrait avoir, comment on pourrait les aider, etc. Puis petit à petit, ça se met en place et puis on ouvre un bureau physique ici à Paris, on commence à embaucher des équipes à Paris, on décide de garder la production à Limoges et de entretenir des relations étroites avec les écoles d'ingénieurs de là-bas, avec la filière universitaire, etc., etc. Tant et si bien aujourd'hui qu'il y a d'ailleurs en partenariat avec l'université de Limoges une Imakina Code Academy qui apprend à des jeunes à coder sur des technos web assez pointus, assez précises. Notre directeur technique est très investi là-dessus.
Et après, vous en embauchez quelques-uns, j'imagine ?
Ah bah oui.
C'est le but.
C'est le but. Ouais. On essaye d'apprendre.
C'est sûr qu'ils ont les compétences que tu recherches.
La grosse majorité de la promo, on essaye de l'en...
Bah, puis c'est une bonne promesse pour eux, pour les motiver.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Et donc voilà. Et puis ensuite, développement international. Et là, on se dit...
Donc là, on est en quelle année au moment où tu te poses la question ?
2006.
2006.
Donc, 2006, on commence à se dire, bon, on a des gros clients, maintenant nationaux, qui ont eux-mêmes des entités à l'étranger, etc. Et on se dit, si on n'est pas capable de les accompagner à l'étranger, ça va être compliqué. Parce que du coup, on sera l'agence en France, mais on ne sera pas leur conseil... en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Et donc, du coup, ils vont confier ça à d'autres agences et on fragmente la relation avec le client. On a aussi beaucoup construit la croissance de l'agence sur des relations de profonde confiance avec nos clients. Je pense à des clients qui nous ont fait confiance très tôt, comme Business Objects, qui a été une des stars du software français. Et on a grandi avec eux. Ils nous ont amenés à l'international, etc. Et donc, l'international a été un sujet. Et là, on s'est dit, bon, voilà, il y a deux façons de faire l'international. Soit on le fait tout seul et il y a beaucoup de risques, c'est lent et c'est cher. Soit on essaye de le faire avec d'autres personnes et ça peut être plus rapide, plus sûr et apporter des solutions plus rapides à nos clients. Et là, mon fameux ami d'enfance que j'avais rencontré sur IRC à l'époque... que j'allais voir régulièrement, qui est belge, Dieter, me présente un de ses amis qui venait d'investir dans une boîte en Belgique qui faisait exactement le même métier que nous. Et pour faire l'histoire courte, on décide de... pardon, c'est mon alarme. On décide de vendre notre structure française à cette structure belge pour rapprocher les deux et démarrer un développement international avec l'ambition de construire ensemble, avec ses nouveaux associés, un groupe international indépendant qui allait compter. À l'époque, ils sont quand même un peu plus gros que nous. Ils ont, eux, pas du tout d'activité en France. La France est un marché stratégique. Ils sont très forts au Benelux depuis de nombreuses années. Ils ont un positionnement reconnu du marché, des beaux clients, etc. Et on y va. Et puis, on s'était donné comme ambition d'être la première agence indépendante en Europe. C'est fait aujourd'hui.
Waouh!
Donc maintenant, on s'est donné comme ambition d'être la première agence indépendante dans le monde.
Du monde, s'il vous plaît.
Donc là, c'est la prochaine roadmap, donc on y travaille. Voilà.
Et qu'est-ce que tu veux dire alors par agence indépendante ? C'est-à-dire que t'es pas...
En fait, tu as deux catégories d'agences sur la planète, pour faire simple.
Ouais.
Tu as les grands réseaux publicitaires qu'on connaît tous, que moi j'appelle les usual suspects, donc Publicis, WPP, Omnicom, Dentsu, etc. Donc en gros, tu as quelques grands réseaux, très peu, moins de 5, qui ont construit leur histoire sur la publicité.
Ouais.
Les folles années de la pub, donc Havas, Seguela, etc., etc.
La télé,
la radio, les médias classiques.
Ouais.
Et puis... sont arrivées les agences digitales qui, elles, ne sont pas du tout arrivées par le prisme de l'idée créative, du slogan, mais sont arrivées par le prisme de la technologie. Donc, tu as deux cultures. Tu as d'un côté les gens qui disent le slogan, le truc que tu vas mémoriser, c'est important. Et de l'autre côté, tu as les gens qui disent non, c'est la technologie qui va manger le monde.
Mmh.
Ok ?
Ouais.
Et puis, évidemment, tout le monde converge vers le même endroit, qui est de se dire comment on parle, comment on conseille le mieux possible les marques. Et la réalité est souvent au milieu du guet. Donc, ce n'est pas que l'idée et ce n'est pas que la technologie. Parce que si c'est que la technologie, c'est des geeks qui font des tonnes de lignes de code super fonctionnelles, mais ce n'est pas très joli, c'est pas très encourageant, appétant, ça ne fait pas envie, c'est pas drôle.
Ouais, c'est un peu des années 90, quoi. Ouais.
Et de l'autre côté, que l'idée dans un monde qui est de plus en plus technologisé, ça ne suffit pas non plus. Donc, les groupes de pub se sont mis à racheter des agences digitales en les intégrant très mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer ces animaux-là de la savane. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un zèbre, une gazelle et un lion, quoi, si tu veux. Donc, ils voient arriver des mecs avec une culture digitale très forte qui ne travaillent pas avec les mêmes process, les mêmes habitudes de travail. T'imagines le choc culturel.
Bah, c'est une disruption comme il y en a eu dans des tas de domaines.
C'est ça. Ouais. Dans la grande académie de la pub, où tu as un directeur créatif tout en haut qui est le mec qui a les idées, que tout le monde vénère et qui règne sur des créatifs. De l'autre côté, tu as une organisation à plat, en network, des mecs qui ont des casques, qui se parlent pas, ils sont à 2 mètres l'un de l'autre, mais ils chattent dans Slack ou dans Skype, tu vois. Bon, c'est pas la même culture. Et donc, agence indépendante, c'est que nous n'appartenons pas à un réseau d'agences publicitaires, nous sommes indépendants et c'est très important pour nous parce que du coup, la qualité de notre conseil n'est pas dépendante des revenus publicitaires. On ne fait pas à la fois notre revenu sur les espaces médiatiques vendus et donc on va donc forcément pousser à acheter de la télé, de la radio ou je sais pas quoi. Non, on essaye nous d'avoir une objectivité très forte et on fait pas que du digital d'ailleurs, on fait aussi du offline. C'est en cela que l'agence a grandi. On a ajouté des compétences de communication traditionnelle dans l'agence. Mais on essaye de diagnostiquer quel est le vrai problème et comment on va le régler. Voilà, donc c'est en cela qu'on dit qu'on est indépendant et qu'on n'appartient pas à un groupe de publicité.
Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ouais. Quand vous recommandez quelque chose à un client, c'est vraiment parce que vous pensez à 2000% que c'est quelque chose qui va lui apporter de la valeur.
C'est ça.
Ok, d'accord. Donc, t'as eu cette stratégie pour l'international, ça fonctionne très bien. Au final, après toutes ces années, quel conseil que tu te donnerais à toi qui démarre en 97? Peut-être une erreur que
J'en ai fait des tonnes. Alors, ça veut dire que je me donnerai plein de conseils. Mais en fait, le conseil principal, qu'est-ce que je me dirais? Il faut plus poser de questions qu'apporter de réponses quand il s'agit de gérer des équipes. Mm-hmm. En fait, le meilleur ressort de management, parce qu'en fait, on a fait l'histoire de cette agence, tu imagines la rapidité de la croissance à travers les années. Donc, tu passes d'une boîte de 2 où je suis avec mon frère à une boîte de 10, de 15, de 20, de 50, de 100, etc. Et ça va très, très vite, en fait. Et donc, quand tu dois gérer et fédérer des équipes, encore plus quand tu dois le faire dans plusieurs géographies, à un moment, il faut avoir ce déclic, et j'aurais aimé l'avoir plus tôt, de se dire... c'est pas en affirmant des choses, en apportant des réponses que tu aides les gens à progresser. C'est en leur posant les bonnes questions, en leur faisant réaliser ce qu'ils ont sous le nez et qu'ils ne voient pas. Simplement, si tu leur donnes la réponse, tu règles le problème à l'instant T, mais tu ne le règles pas durablement. Si tu leur poses la question, tu mets en route le mécanisme qui leur permet de trouver la réponse et là tu règles le problème durablement et tu les mets sur la voie du progrès. Et souvent en management, les micro-managers ont tendance à traiter des situations les unes derrière les autres, à être toujours débordés, à vouloir intervenir sur tous les sujets parce qu'il y a un niveau d'importance égal sur tous les sujets, et savoir abandonner des choses en les déléguant vraiment et en faisant confiance et en se disant ça va pas être fait comme moi je l'aurais fait, mais il est plus important que ça soit fait on time et différemment. Plutôt que je le garde pour moi, j'ai pas le temps de le faire et on va prendre 3 mois de retard. Donc ça serait vraiment ces sujets-là en fait que je donnerais comme conseil. Poser des questions pour aider les gens à progresser par eux-mêmes et leur donner l'envie.
Pour leur donner la prise de conscience finalement.
C'est ça.
Enfin, ouais, qu'ils comprennent vraiment.
Accepter que les choses soient faites différemment par ces gens-là et débriefer après. Mais en attendant, il n'y a qu'une seule chose qui compte dans la vie, c'est l'exécution. Exécuter, exécuter, exécuter. Des gens qui ont des bonnes idées mais tu en, il y en a plein, tu en croises, j'en croise, j'en vois plein. La quantité de gens que j'ai entendu me dire, ouais, mais moi, j'ai eu l'idée de Facebook avant Facebook, j'ai eu l'idée d'eBay avant
c'est
eBay.
Clair, il y en a plein.
Bah, la seule différence,
c'est qu'ils n'ont rien fait.
Ils
l'ont pas fait assez bien.
Voilà, c'est
ça. Complètement.
Donc, il n'y a que l'exécution qui compte.
Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je veux dire, j'en ai interviewé des entrepreneurs et ça revient toujours. La clé, c'est l'action, l'action, l'action. Mmh. Tu parlais aussi de l'approche Lean Startup qui est en gros d'arrêter de se prendre la tête et se donner des excuses pour ne pas agir et vraiment de démarrer le plus vite possible en connexion avec le terrain, vraiment de se mettre dans des conditions réelles pour tester son idée. Et ça fait partie de la même démarche. Vous pourrez toujours trouver toutes les excuses du monde parce qu'il n'y a jamais de moment parfait pour démarrer, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le moment parfait pour démarrer, c'est le moment où vous avez décidé de démarrer. Mmh. Et que vous avez mis, et bien sûr, ça ne veut pas dire juste de démarrer pour histoire de démarrer, il faut mettre toutes les choses sur le côté, y aller à fond, le couteau entre les dents, là, avec le feu sacré et tout ça. Il y a des gens, ils se passent leur vie à se former, à lire des bouquins de business, à aller dans des conférences et tout ça, et au bout de 10 ans, ils n'ont toujours rien fait.
Ils n'ont toujours pas monté de boîte.
Ils n'ont toujours rien fait. C'est des mecs qui sont intéressés par la culture générale, l'éducation, mais pas l'action. Mmh. Ne faites pas partie de ces gens-là.
Oui, c'est clair. Et je pense aussi que depuis qu'Internet est à la mode, depuis qu'on tu peux plus ouvrir un journal ou un magazine sans que tu vois le mot start-up quelque part, etc., il faut faire attention aussi à une chose, qui est que tout le monde n'est pas entrepreneur. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. On peut très bien, dans sa vie, ne pas être entrepreneur, ne pas être numéro 1, mais être un super numéro 2, un super numéro 3, et aider quelqu'un qui a une vision à l'exécuter et participer au projet. Et je pense que c'est dangereux, le brainwashing qu'on a en ce moment, de dire à tout le monde, vous êtes des entrepreneurs, tout le monde peut monter sa boîte, entreprendre, ça s'apprend. Moi, je pense que ça ne s'apprend pas. Ça se stimule, ça s'encourage. Et ensuite, tu as les prédispositions naturelles et tu vas les bosser ou tu ne les as pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans une aventure entrepreneuriale, mais ça veut peut-être dire que tu ne peux pas la leader.
Alors, comment tu sais si tu es un entrepreneur ou pas? Est-ce que tu le sais intrinsèquement et tu ne te poses même pas la question?
Ben, je pense que ceux qui sont entrepreneurs ne se posent pas cette question. En fait, ils n'ont pas peur, ils vont essayer, commencer à exécuter et ils vont réussir ou rater, mais ça ne les tétanise pas. Quand tu commences à cogiter, comme tu disais, en disant « je vais lire 25 bouquins, je vais aller voir plein de gens qui l'ont déjà fait, et puis dans un an et demi et deux jours et trois heures, je prévois de lancer ma boîte », là, déjà, ça ne part pas très bien.
Hmm. Ouais. Je suis assez mitigé par rapport à ça. Je pense que t'as raison que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est clair. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pourraient l'être et qui n'y pensent pas.
Ah oui, mais ça c'est vrai.
Ouais.
C'est clair.
Et je pense qu'en France, parce qu'il y a aussi l'influence de la société et tout ça qui joue, en France notamment, il y a un manque d'état d'esprit entrepreneurial. Je pense d'ailleurs qu'on en discutait avant, on partage le même constat là-dessus et on est dans le même combat finalement pour souffler sur les braises. Mais je pense que quand tu es dans un environnement comme la France qui n'est pas très entrepreneur friendly, tu peux avoir des braises comme ça qui se prennent des gouttes d'eau et qui s'éteignent, alors que si tu soufflais dessus, ça deviendrait des vrais brasiers.
Ouais.
Est-ce que Steve Jobs, s'il était né en France, il serait devenu Steve Jobs? Bon, c'est une grande question, on ne pourra jamais répondre à ça. Mais il y a sans doute des gens qui pourraient être des vrais entrepreneurs. Il faut juste qu'on leur dise, attendez, c'est possible, voici la voie.
Mais je pense qu'il faut aussi dédramatiser ce que c'est qu'entreprendre. Parce qu'il y a une espèce de starification des entrepreneurs. Soit par la taille des entreprises, soit par... tu vois ce que je veux dire, c'est, tu vois les couvertures de magazines et on te dit, oui, ils ont ouvert 25 pays, ils sont 2500. Nanana. Je pense que ce n'est pas ça l'objectif premier. Ma définition de ce que c'est qu'un bon entrepreneur, c'est, pour moi, entreprendre, c'est présider à son destin.
D'accord, donc être responsable, c'est être pilote de son avion.
Exactement.
Avec tous les risques et les joies que ça amène.
Tu peux le faire seul, tu peux le faire à plusieurs, tu peux avoir la joie de le faire seul à un moment et la joie de le faire avec un peu de gens à un autre moment et avec beaucoup de gens à un autre moment, parce que ta source de satisfaction change à travers les années. Mm-hmm. D'abord, tu te prouves des choses à toi-même et puis ensuite, tu prouves des choses aux gens qui t'entourent et puis ensuite, tu as envie d'aider les autres à se prouver des choses à eux-mêmes. Donc, tu es plus dans une logique de transmission et de mentoring quelque part ou de leadership, ce qui est plus mon cas dans cette phase-là après presque 20 ans d'entrepreneuriat, tu vois. Ma source de plaisir aujourd'hui, c'est de voir progresser mes équipes, de recruter des gens sans distinction de diplôme, mais sur le mérite, sur la passion et sur les compétences réelles, avérées, et de les voir progresser à travers les années. Il y a des personnes chez nous qui sont dans l'agence depuis 10 ans, qui ont démarré comme designer ou développeur et qui aujourd'hui encadrent des équipes, ont hyper progressé, sont responsables d'unités entières, etc. Ça, pour moi, c'est une source de joie immense.
Donc, tu as même ce qu'on appelle donc des intrapreneurs, des gens qui entreprennent à l'intérieur d'une entreprise, qui ont une certaine autonomie par rapport au projet.
Exactement.
Et tout ça, c'est aussi une manière d'entreprendre sans entreprendre, avec moins de risques, mais qui peut aussi être très, très satisfaisante pour les gens. Finalement, ça rejoint ce que dit Oussama Hamar, donc le cofondateur de Family qu'on connaît tous les deux, qui dit « Anyone can be an entrepreneur, but not everyone ».
Exactement.
Et ce qu'il veut dire par là, c'est que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais on ne sait pas… Enfin, les entrepreneurs peuvent venir de n'importe où, de n'importe quel milieu. Tu peux être fils d'ouvrier et devenir un super entrepreneur. On a plein d'exemples comme ça dans le monde. On sait qu'il y a un tiers des entrepreneurs américains qui n'ont même pas de diplôme. Donc, c'est quand même… Enfin, pas des entrepreneurs, des milliardaires américains, autant pour moi. Vous pouvez être un fils de fermier et devenir un super entrepreneur. Ça… Après, je pense que parfois… souffler sur la braise, ça peut aider.
Oui, mais c'est pour ça que…
Et alors, du coup,
c'est pour ça que tu fais
mais quand tu es une braise qui s'est fait mouiller toute ta vie, comment tu sais que tu es un entrepreneur? C'est ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, ils vont se révéler à eux-mêmes quand ils vont se lancer dans un projet et parfois, ils peuvent hésiter un peu au début. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même cet appel de la liberté en eux, tu vois.
Il y a un truc en toi.
Vous sentez quelque chose, une émotion. Vous savez que vous n'êtes pas fait pour être employé, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle. Il y a une espèce de…
Ouais, il y a un truc qui te fait dire…
Vous êtes en train de regarder cette vidéo, enfin je veux dire, là ça fait déjà un moment que ça dure. Mmh. Si vous êtes encore en train de regarder, c'est quelque chose qui vous titille. Les autres qui sont en train de regarder des bébés chats ou des youtubeurs humoristiques, c'est clair.
Mmh. Bien sûr, et je pense que c'est au fond de toi en fait. Et si tu prends le temps de l'écouter, alors tu risques rien. Parce que ça veut dire que tu vas effectivement souffler sur la braise et que tu peux allumer le feu sacré. Maintenant, si tout ce qui t'entoure, la morosité, l'économie, tous les conseillers vont te dire que c'est jamais le bon moment, qu'il faut attendre un peu avant les élections présidentielles, après, mais là tu comprends c'est la crise, etc. Et que tout ça, ce sont des paramètres qui t'affectent et qui te font dire « ah oui, ils ont peut-être raison », alors… faut faire attention, c'est peut-être que c'est pas fait pour toi.
Oui, peut-être que finalement, pour résumer l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui… comme tu dis, qui est non seulement responsable de sa vie, mais qui comprend qu'il peut changer l'environnement autour de lui, si l'environnement ne lui plaît pas et qu'il ne va pas juste subir en victime ce qu'il y a autour de lui. Un entrepreneur, il va avoir plus facilement le réflexe. Après, même les entrepreneurs sont des êtres humains. Je veux dire, ça nous arrive de râler juste pour râler, quoi. Ouais. Mais un entrepreneur, je pense qu'il va plus, il va davantage se dire quand il y a quelque chose qui l'emmerde, ah, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça?
Il faut comprendre que dans ta vie d'entrepreneur, en fait, tu passes de l'immense joie au drame total d'un email à un autre ou d'un rendez-vous à un autre. Donc, si tu as peur des difficultés, c'est compliqué. En fait, je pense qu'il faut aimer… affronter les difficultés et se surpasser. Si tu as ce goût-là, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs avoir des pratiques sportives. Parce que, de mon point de vue, finalement, ils font la même chose que dans l'entreprise. Ils s'affrontent à des nouvelles difficultés qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'affronter avec… Ils les affrontent d'habitude avec leur cerveau, ben là, ils les affrontent avec le physique et ils voient s'ils en sont capables.
On voit beaucoup de points communs comme ça. Moi, quand j'étais au CJD, par exemple, donc le centre des jeunes dirigeants, j'étais frappé par le nombre de gens qui faisaient des marathons. C'était une proportion largement supérieure à la population normale parce que voilà, un marathon, ça a beaucoup de points communs finalement avec le fait de diriger une entreprise. C'est un combat contre soi-même, il faut avoir de la discipline pour se préparer et après, 42 km à courir, c'est pas rien et il faut tenir jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est…
Beaucoup d'abnégation.
Alors bon, moi personnellement, j'ai jamais été très sportif, mais maintenant ça va mieux. Donc il y a des exceptions, mais c'est vrai qu'il y a une forte corrélation. Après aussi beaucoup d'entrepreneurs qui lisent davantage que de regarder la télé, enfin plus que la moyenne de la population, qui sont peut-être qui ont l'esprit plus ouvert, qui ont ce qu'un prof du CNAM disait, locus of control positif, c'est-à-dire cette envie de changer l'environnement plutôt que de le subir.
C'est ça.
Voilà. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ça, c'est une bonne nouvelle. Et si vous n'êtes pas en contre-entrepreneur, c'est peut-être le signe qu'il faut vous y mettre.
Ouais, bien sûr.
Eh bien, super. Alors, pour conclure, du coup, est-ce que tu peux donner un conseil aux gens qui sont encore en train de nous regarder, qui sentent l'étincelle en eux et qui disent « purée, c'est bon, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2016 ?» Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur en 2016 ou quelqu'un qui veut se lancer ?
Ben, je lui dirais que quelle que soit l'idée, le concept, la boîte, etc., etc., si quand tu te dis si quelqu'un d'autre l'a fait à ma place, ça va me rendre la vie impossible, ça va me rendre fou, je vais m'en vouloir, etc., alors faut le faire. Et il faut le faire maintenant et sans attendre. Ne laissez pas les autres exécuter à votre place, ça serait dommage. Allez-y, foncez.
Exactement. Donc bah voilà, merci. Donc comme d'habitude, hein, enfin quasiment comme tout le temps, on conclut sur ça. Bougez-vous les fesses, agissez, faites quelque chose dans le monde. Et puis même si vous vous plantez, enfin, faut pas faire non plus se mettre en mode kamikaze. Les bons entrepreneurs, ça serait faux de croire qu'ils y vont comme ça en mode banzai. Ils prennent des risques calculés. Donc voilà, après il faut aussi vous former un minimum à ça, mais lancez-vous et accomplissez votre rêve. Donc toi d'ailleurs tu as aussi une chaîne YouTube où tu partages et aussi une page Facebook où tu partages, mais voilà, justement ça va être l'occasion de pour des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais d'aller voir un peu, parce que finalement tu es dans une démarche similaire à la mienne, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu te rencontrer, de vouloir démocratiser un petit peu l'entrepreneuriat, de montrer un peu les coulisses et de donner des conseils. Tu donnes des conseils concrets pour les entrepreneurs qui se lancent. Donc ta chaîne, comment on fait pour la trouver ?
Bah, on tape Manuel Diaz dans YouTube.
Voilà, donc ça s'affiche aussi ici, puis on vous a mis le lien dans la description.
Formidable, merci, merci beaucoup.
Et puis tu partages aussi sur ta page Facebook.
Et sur ma page Facebook, Manuel Diaz aussi. Et donc, j'essaye de, à travers un programme qui s'appelle Marche ou Crève, parce que je pense que le jour où on ne marche plus, on est un peu mort.
Ça résume bien l'état d'esprit d'entrepreneur.
C'est ça. Je partage effectivement des feedbacks sur... ma vie d'entrepreneur, les questions qu'on me pose beaucoup dans les conférences que je fais, ou qu'on m'envoie par email, etc., etc. Et je prends l'actualité liée à notre environnement digital et j'essaye de la décortiquer et de montrer les opportunités qu'il y a là-dedans. Donc voilà. Et puis tous les 10 jours, sur un format un peu plus long, j'ai un autre programme qui s'appelle Non-Stop, où là, on me dit souvent, mais comment tu gères ton temps, comment tu gères ta journée, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et en fait, je me suis dit, mais le plus simple, c'est d'abaisser toutes les barrières et d'amener une caméra avec moi pendant une journée non-stop qui me suit du moment où je sors de chez moi jusqu'à mon dernier rendez-vous le soir et qui a accès à tout ce que je fais. Donc, je vous amène dans les coulisses de ma vie.
C'est intéressant, ça, ouais.
Comment fonctionne l'agence avec des clients à l'intérieur, en meeting, les problèmes, les trucs qu'on doit surmonter, etc.
Waouh, c'est une très bonne idée. Hein. Donc, tu as quelqu'un qui t'accompagne et mode totale transparence.
Exactement. Ouais. Alors, on le monte quand même pour que ça soit pas chiant.
Pour que ça dure 18 heures. Alors là, je me brosse les dents.
mais c'est l'idée. Alors, j'ai commencé tout ça en septembre dernier, donc je suis un petit poussé comparé à toi et d'autres personnes qui sont sur YouTube depuis longtemps. Mais je me dis, après tout, que mon milieu, le milieu des agences de com, il est toujours en train de conseiller des marques, en train de leur dire vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, etc. Et finalement, très peu le font. Donc je me suis dit, il faut y aller, faut montrer l'exemple, faut essayer. Il y a des gens à qui ça va plaire, d'autres à qui ça va pas plaire, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le chemin. Donc allons-y. Donc je me suis lancé et timidement, petit à petit, je m'approche de mes 1000 abonnés sur YouTube.
Yes.
Voilà. Donc là, on doit pas en être loin. Donc, si vous voulez m'aider, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.
Ouais. Et puis bon, voilà. Si vous êtes entrepreneur et que ça vous intéresse de voir un petit peu les coulisses d'un super entrepreneur, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis, génial. On attend avec impatience ces 10 000 abonnés. Alors.
Il y a un peu de chemin, mais on y travaille. Mais
écoute, merci beaucoup, Manu, d'avoir partagé ton parcours et tout ça avec nous. Donc, voilà. Si vous êtes encore en train de regarder, c'est que vous êtes super motivé. Donc, ce que je vais vous demander, c'est comme d'habitude, s'il vous plaît, prenez une chose dans cette interview qui vous a inspiré et que vous pouvez mettre en action dans votre vie, dans votre business, et puis faites-la. Ça fera en sorte que vous en ayez retiré vraiment quelque chose de cette vidéo et pas que ce soit juste de la masturbation intellectuelle. Même si la masturbation intellectuelle, ça peut être agréable, mais voilà, ça amène pas très loin. Donc, merci à vous. Et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs devraient la voir, cliquez sur j'aime juste en dessous. Partagez-la éventuellement en l'envoyant à d'autres personne. High five Manu,
merci.
Bravo, et puis peut-être qu'on fera une autre interview dans quelques années pour voir un peu la suite de toute cette aventure magnifique.
Avec plaisir.
À bientôt.
Hey.
Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.